France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, nous recevons l'écrivain Jean-Jacques Schoul. À 19h20, affaire en cours, mais qui est donc Fran Lebowitz, l'autrice et chroniqueuse superstar aux États-Unis? Le cinéaste Nicolas Saada explique à Marie Sorbier ce qui fait d'elle une icône. À 19h50, affaire à suivre, en compagnie ce soir de la cinéaste Lucile Adzialilovitch. Le tout est réalisé par Liz Combe et Alexandre Fougeron, avec François Rivalant et Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Jean-Jacques Schoul.
Bonsoir Monsieur Laporte.
Vous venez de publier Les Apparitions chez Gallimard, ce qui nous donne l'occasion de vous consacrer cette émission pour tenter d'en savoir un peu plus. Alors non pas tant sur vous, qui êtes quand même l'un des écrivains les plus discrets qui soit, et les moins prolixes. C'est votre sixième livre, 50 ans après l'apparition du premier, Rose Poussière, en 1972. Alors oui, vous êtes connu du grand public pour le prix Goncourt remporté par votre livre Ingrid Cavan en 2000, mais vous n'avez publié depuis que deux livres avant ce dernier. C'était Entrée des fantômes en 2010 et puis un recueil de nouvelles, appelons-les comme ça, Obsession en 2014. On évoque souvent les années de formation de nos invités, leur enfance aussi, pour essayer de savoir ce qui les a conduits à pratiquer leur art. Vous concernant, vous dites avoir peu de souvenirs d'enfance, d'adolescence, d'histoire d'amour, ni d'expérience à retracer, pas de stock, dites-vous, mais vous ajoutez que vous n'avez aucun goût pour l'introspection, que vous manquez d'imagination. On se dit qu'on comprend peut-être mieux pourquoi vous n'avez écrit que ces 6 livres en 50 ans. Comment naît un livre? C'est une question qui est particulièrement passionnante chez vous. Mais dire quand même, Jean-Jacques Schoul, que vous êtes né et que vous avez grandi à Marseille, fils unique, dans une famille de la grande bourgeoisie, mais des parents communistes. Ce sera Paris, la rencontre avec celui qui allait devenir un de vos meilleurs amis, Jean Eustache. Vous écrirez plus tard, à propos de vous deux, « J'ai peine à imaginer deux personnes aussi passives et capables de ne rien faire si longtemps, strictement rien, une longue torpeur dans les bars que Jean Eustache et moi, du moins en Occident. » Et vous citez dans Les Apparitions votre slogan « Soyez creux, vous sonnerez mieux ». Pourquoi ce choix d'être radicalement inactif?
Je dis aussi dans Les Apparitions, je suis à mon bureau, je ne fais rien, j'attends. Le peintre, c'est le peintre Corot, paysagiste, qui disait « Il ne faut pas chercher, il faut attendre ». Je pense que ça se rapproche aussi de certaines attitudes un peu orientales ou de laisser venir les choses et que les choses se fassent avec soi mais aussi sans soi. Et c'est pas un choix délibéré, ça s'est fait peu à peu, ça n'empêche pas ensuite qu'il faut mettre tout ça en ordre et composer le livre, ça une fois. Mais enfin, j'ai toujours ce sentiment que les choses que je préfère, que ce soit chez les autres ou dans ce que je peux écrire, c'est des choses qui n'ont pas été trop voulues intentionnellement et qu'elles ont été, comme une grâce, du moins comme quelque chose qui a été là, tout d'un coup, brusquement, comme une apparition, effectivement. Et c'est ça que je recherche. Je n'ai pas de discipline pour ça, je n'ai aucune religion, aucune. Simplement, j'aime beaucoup travailler avec ce qui est déjà là, ce qui est une attitude un peu pop, et je revendique d'être un pop romancier, donc avec ce qui est déjà là, déjà écrit, déjà filmé, déjà chanté, et de tout ça, comme si vous voulez des objets trouvés, des ready-made si on préfère, c'est avec ça que j'essaye de composer mes petits objets.
Pour parler de ces objets, notamment la question de la lecture de la presse quotidienne, qui est quelque chose de très présent chez vous, et encore dans les apparitions. À une époque, vous dites avoir arrêté de lire des livres, quelques années, à la fin des années 60, début des années 70, mais vous lisiez quand même les 4 éditions quotidiennes de France Soir, et puis, plus tard, vous aimeriez aller dans les bureaux de l'AFP, de Reuters, de la Société de Presse. Ça va nourrir votre deuxième livre, Telex numéro 1. Avec le désir de donner l'impression d'un livre machine, disiez-vous, un livre qui se serait fait tout seul, à ce moment-là, au début des années 70, la place de l'auteur est questionnée. Là, pour vous, il s'agissait de disparaître aussi ?
Oui, les journaux... c'était surtout France Soir, qui était un journal sans idéologie manifeste, qui n'était pas un journal du tout politique, qui était un journal, là encore, c'était un objet pop. Vous savez, les peintres, les cubistes ont représenté le journal. C'est le monde extérieur. Il n'y a pas un collage à proprement parler. Encore que, si, il y a des toiles de Picasso où il y a une coupure de journal avec un morceau de partition, etc. Donc, les cubistes et le pop art a beaucoup utilisé le journal. Rauschenberg a énormément utilisé les coupures de presse. Warhol, moins, de manière différente. Warhol, il y a le Time qui est encadré, simplement. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ces peintres, qu'ils soient cubistes, qu'ils soient pop, privilégie plutôt qu'une expression personnelle, ça c'était l'expressionnisme abstrait qui moi ne m'intéresse pas beaucoup, ou un peu les fauves, etc. Avant, qui eux, c'est l'expression donc personnelle, et donc c'est peintre pop ou avant cubiste, privilégie eux une sorte de primauté du monde sur l'expression personnelle, c'est-à-dire sur la primauté de ce qui est déjà là, et une des formes de cette de manifester cette primauté, ça a été à une époque le collage des peintres cubistes. En littérature, on me parle parfois de collage pour moi, mais il n'y a pas pour m'en parler collage en littérature, parce qu'il faut que l'objet, que ce soit un objet superposé à un autre. En littérature, c'est des mots, et des mots sur des mots ne donnent pas le collage. Mais enfin, c'est une direction, une tournure d'esprit, si vous voulez, qui est indiquée par ça. Donc oui, les journaux, en plus, je trouve qu'il y a un grand lyrisme dans le journal, surtout c'était le cas de François, on ne peut pas avoir une idée aujourd'hui. Il y avait donc 3 ou 4 éditions, au moins 3 par jour, qui changeaient un petit peu, et il y avait ces encres très noires, c'était des grandes pages. On voit au début d'À bout de souffle, il y a un plan formidable, je crois que c'est le premier plan d'À bout de souffle, c'est François. C'est François, parce que derrière, on voit un chapeau par-dessus François, et on voit au deuxième plan que sous ce chapeau et derrière ce journal, il y a Jean-Paul Belmondo en train de lire François. Le journal est donc vers l'extérieur du journal, on voit très bien les bandes dessinées de l'époque de François, Chéri Bibi, 13 rue de l'Espoir, etc., et tout ça comme ça. Donc, on est en plein pop, en plein pop art, que ce soit du côté de Godard et de la Nouvelle Vague, qui a un côté pop aussi, avec ses citations, ses utilisations de publicité, si vous voulez, c'est vraiment ce moment-là. Et le journal. Et je me suis senti à ce moment-là, l'arrivée de la Nouvelle Vague et du pop art sont les deux choses qui m'ont stimulé beaucoup. Vous me demandez tout à l'heure, comment on commence un livre, qu'est-ce qui fait qu'on écrit un livre. Et moi, c'est pas du tout, effectivement, le stock sentimental ou les souvenirs d'enfance, tout ce que vous voulez. Ça a été, par exemple, l'arrivée du pop art et aussi du cinéma, du nouveau cinéma, qui ont été des révélateurs.
Et parmi les autres déclencheurs, Jean-Jacques Schulz, vous avez raconté qu'il y avait un concert des Rolling Stones à... période Brian Jones, et puis il y avait aussi ce maquillage que vous avez trouvé chez Biba à Londres. cette nuance qui s'appelle Rose Poussière. C'est un livre court, ce Rose Poussière, qui est composé d'extraits de films, de bouts de François, de listes d'hôtel, de paroles, des chansons des Stones. On y croise aussi Marlène Dietrich, Frankenstein. Aujourd'hui, on a le sentiment, en lisant Rose Poussière, de lire la chronique de la fin d'une époque insouciante, d'une époque légère, très très révolue. Est-ce que vous avez eu l'occasion, ou est-ce que vous relisez parfois Rose Poussière? Quel regard vous portez sur ce livre?
Non, j'aime pas du tout me relire. Je me relis à l'occasion lorsqu'il faut faire une citation dans quelque chose ou que j'ai pour une interview ou une chose. Mais autrement, j'aime pas du tout me relire. Mais en ce qui concerne Rose Poussière, j'aime certaines choses, d'autres, et en particulier les Rolling Stones, compte tenu de ce qu'ils sont devenus, une sorte de grande cash machine qui joue devant des stades de 50 000 personnes, je trouve que j'ai un peu quelque chose qui ne... Ça rejaillit sur le livre, et l'image d'aujourd'hui rejaillit sur l'ancienne image. Il faut dire que le concert à l'Olympia, c'était donc très réduit. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la musique rock, ça ne m'intéressait pas énormément, c'était plutôt tout ce qu'il y avait autour d'un groupe. La notion de groupe, d'abord, m'a intéressé. C'était la première fois, la pop anglaise, où le groupe, qu'il soit 4, 5, il y avait cette idée de groupe, donc de perte d'individualité, déjà. Vous parliez de l'auteur, c'est pareil, l'individualité. Donc là aussi, dans un groupe, il n'y a pas d'auteur, bon, il y a paroles, musique. Mais enfin, c'est un groupe. Et puis, tout ce qu'il y avait autour, la mode, les jeunes filles, les groupies, ça apportait beaucoup de choses autour que n'apportait pas le chanteur traditionnel individuel. Et là, comme le pop art plastique, en art plastique, en peinture, comme la nouvelle vague, c'était quelque chose de très nouveau. Tout ça a été au même moment, ça a été un jaillissement et des apparitions, parce que dans le mot apparition, je pense qu'on entend aussi quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu avant, et un surgissement. Et là, c'était le cas.
Alors, à propos de surgissement, il y a un cinéaste qui compte beaucoup dans cette époque-là, c'est Jean Eustache. J'aimerais qu'on l'écoute, avant de poursuivre, évoquer son film « La maman et la putain ».
Et moi, je n'ai rien inventé. D'abord, comme dit Alexandre, je suis contre l'invention. Je suis contre tout ce qui est nouveau. Je suis pour tout ce qui est ancien. J'ai fait dans ce film, comme vous avez pu le voir, beaucoup de fondu au noir. Chose, écriture très démodée. J'ai fait des chants contre chants. Écriture très contestée. On dit, on fait des chants contre chants quand on est incapable de faire autre chose. J'ai fait beaucoup de choses qui ont été très contestées dans le cinéma depuis une quinzaine d'années. Je n'ai rien voulu prouver, mais je pensais que la modernité n'était pas les signes de la modernité et que beaucoup de films où la caméra virevolte, etc., c'est les signes de la modernité. Sans la modernité, moi j'ai essayé paradoxalement d'avoir la modernité sans les signes.
On pourrait penser, Jean-Jacques Schul, que vous n'avez pas du tout la même démarche stylistique que votre ami Eustache, parce que Rose Bonbon, on l'a dit, emploie des techniques de la modernité. Et pourtant, La Maman et la Putain et Rose Bonbon, qui sortent à quelques mois d'intervalle, ils incarnent absolument leur époque. Comment est-ce que vous comprenez ça?
D'abord, La Maman et la Putain, le personnage de l'ami d'Alexandre, le personnage principal, qui s'appelle Charles. Je ne veux pas dire Charles, c'est moi, comme disait l'autre, mais Charles, c'est beaucoup moi. Ensuite, je fais une autre remarque à propos de la modernité ou non de Jean Eustache, c'est qu'il était un esprit libre, parce que lorsque j'ai écrit Rose Poussière en 72, c'est au même moment que La Maman et la Putain, 72, 73, même moment que La Maman et la Putain, qui est allée à Cannes à ce moment-là, et moi, il y a mon livre qui était paru quelques semaines avant. Ce livre qui... effectivement, il y a des signes de modernité, beaucoup de signes de modernité dedans, c'est ce que je souhaitais faire. Mmh. Et Jean Eustache a beaucoup aimé ce livre, et pas pour, par complaisance amicale. Je sais qu'il l'a offert à Jeanne Moreau, je sais qu'il aimait beaucoup ce livre, à tel point, je crois qu'on en trouve des traces dans l'Observateur, parce qu'il avait fait une conférence de presse, il me semble, mmh. À Cannes, et... est-ce que c'était dans ce conférence presse ou ailleurs ? Bref, il avait mentionné la main, il l'aimait vraiment beaucoup. Donc, il y a une liberté. J'avais été très surpris qu'il trouve ce livre, en effet, intéressant. C'était en principe pas son univers. Pour ce qui est de moi, face à son film, en dehors de ce truc anecdotique, au fond, que j'étais partie d'un personnage,
c'était
quand même un peu composite, mais enfin, en dehors de ça, qui est tout de même anecdotique, il y avait dans La maman et la putain, je vous parlais tout à l'heure d'objets trouvés. Quand on a vu avec les deux ou trois amis de ça, qu'on faisait une bande, qui était une petite bande, la bande à Eustache, lorsqu'on a vu la première fois le film, on a été stupéfait de voir toutes les phrases qu'on avait dites ensemble, ici ou là, dans le film. Il avait utilisé. Pas du tout, là encore, d'expression très personnelle. Il avait beaucoup pris de choses qu'il avait entendues, qu'il avait notées.
Mais ça renvoie à la citation que vous notez dans Les apparitions de La maman à la putain. Parler avec les mots des autres, ça doit être cela la liberté.
Exactement, c'est la phrase qui résume bien tout. Et la transfusion, qui est question de transfusion, parce que je suis transfusé, je suis histoire d'hôpital. Où j'ai une grande hémorragie, une perte d'oxygène, etc. Donc on me transfuse. Et lorsque j'entends ce mot transfusion, métaphoriquement, le fait de citer, d'utiliser les mots des autres, même de pasticher, etc. Tout ça, c'est de la transfusion. La transfusion, disons. Artistique, si on veut. Enfin, c'est pas...
Oui,
c'est artistique. Ça. Donc, j'ai pris la transfusion. Il n'y avait pas d'intérêt autrement dans ce livre à parler des problèmes techniques de la transfusion. Il n'y en a pas. C'est qu'une transfusion banale.
C'est un film.
Et enfin, donc, je suis parti sur certaines divagations. Il y a un moment donné où ça divague. Et qu'est-ce que c'est que la transfusion? Je dis, à un moment donné, il y a une plaque où il y a transfusion en tout genre, 24 heures sur 24. Voilà. Alors, des gens comme Eustache, ou j'espère comme moi, sont transfusés en tout genre, 24 heures sur 24.
Avec cette belle phrase, on va pouvoir poursuivre notre conversation dans quelques minutes. Auparavant, on retrouve Marie Sorbier pour Affaires en cours.
L'affaire en cours du jour, mais qui est donc Fran Lebowitz, chroniqueuse, autrice, icône new-yorkaise? Elle observe avec humour et dérision la société américaine, fréquente depuis des décennies artistes, mannequins et écrivains, mais surtout attire aujourd'hui les foules à chacune de ses apparitions. Fran Lebowitz est actuellement à Paris à l'occasion de la sortie en français d'un recueil de ses pensées, acerbe, désabusée et furieusement drôle, qui s'intitule « Pensez avant de parler, lisez avant de penser » aux éditions Pauvert. Nicolas Saada, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cinéaste et vous allez ce soir converser avec cette femme qui trimballe avec elle cette aura si particulière. Alors, quelle est pour vous la meilleure définition de ce que représente Fran Lebowitz?
Pour la citer, je pense qu'elle dit d'elle-même qu'elle est une observatrice. Je pense qu'elle a quelque chose qui la rattache à une vraie tradition anglo-saxonne. D'humoristes écrivains américains, de chroniqueurs de la vie sociale mondaine. Alors, dans les années 40, 50, 30, ça a été des gens comme James Thurber, qu'on connaît pas en France du tout, mais qui était une grande plume du New Yorker. Il y a évidemment Dorothy Parker, qui a été un de ses modèles. Et Dorothy Parker, c'est évidemment un très grand écrivain, mais c'est aussi quelqu'un à qui on doit des saillies et des chroniques extrêmement drôles dans la presse américaine. Et pour moi, c'est autant une espèce de légende, Fran Lebowitz, que quelqu'un qui finalement s'inscrit dans toutes ces traditions littéraires anglo-saxonnes, américaines. Alors, il y a même certains qui disent que c'est une tradition qui commence en fait avec Oscar Wilde.
dont elle parle souvent d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a plus écrit depuis très longtemps, et pourtant elle jouit d'une notoriété qui ne cesse d'augmenter. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Est-ce que c'est justement ces fameuses conférences, alors qu'elle fait beaucoup aux États-Unis et que là elle vient faire une tournée en Europe, qui sont toujours à guichet fermé, et il y a des âges très différents qui viennent la voir ?
Je pense que la conjonction du confinement et de la série produite par Netflix et réalisée par Martin Scorsese a révélé au monde entier le visage et le tempérament de Fran Lebowitz. Je pense qu'à New York, elle a toujours été une espèce d'icône, comme vous le dites, en tout cas quelqu'un qui était incontournable. En revanche, dans le reste du monde, ceux qui avaient entendu parler d'elle la confondaient par exemple avec la photographe Annie Leibovitz. Enfin, il y avait peu d'informations qui circulaient à propos de Fran Lebowitz dans le monde jusqu'à cette série qui a été vraiment vue et qui a aussi révélé à toute une nouvelle génération ce personnage, que c'est aussi un personnage, Fran Lebowitz.
Oui, série qui est sortie sur Netflix en 2021 et en effet Martin Scorsese la filme comme un archétype de l'intelligentsia américaine.
En tout cas, comme un archétype de l'intellectuel new-yorkais, et c'est une forme aussi de voyage dans une époque qu'on fait avec elle dans cette série, parce qu'elle évoque évidemment ses débuts, elle évoque sa rencontre avec Warhol, sa collaboration à cette revue culte qui a été Interview, et donc elle est à la fois, comme elle le dit elle-même, observatrice, journaliste, un peu ermite aussi, un peu nomade, elle l'affirme, elle le revendique, et d'ailleurs Scorsese le traduit dans le documentaire avec cette très jolie idée. On la voit circuler sur cette maquette géante de New York. Elle se promène à travers la maquette et c'est une manière pour lui de montrer Fran Lebowitz comme une promeneuse, quoi. Alors, en France, on a une tradition qui est celle du flâneur, qui est une tradition qui remonte à Baudelaire, même un peu avant, je crois. Et elle, je crois qu'elle affirme aussi cette idée à la fois de penser, de réfléchir. C'est le titre français du livre. Et en même temps, il y a cette idée de flâner, mais pas au sens où on flâne pour ne rien faire. On marche et on essaie de rencontrer des idées et on essaie de rencontrer le monde.
Oui, c'est aussi une déclaration d'amour à New York, Fran Lebowitz, quand même. Elle parle beaucoup de sa ville. Alors même si elle a des phrases assez cultes, c'est assez désabusé, c'est assez acerbe comme verbe, mais il y a cet amour infini pour cette ville. Et alors nous, en tant que Français, on le ressent d'autant plus.
Oui, et... Même si elle ne l'affirme pas et qu'elle essaie toujours de rire à ses dépens, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision, je crois que sans s'en rendre compte, elle incarne presque une figure de moraliste, quoi, parce qu'elle a des jugements sur la technologie, les relations entre les gens, l'invasion de toutes les formes d'expression par l'argent, qui sont quand même assez tranchées et parfois même assez courageuses. Et de ce point de vue-là, oui, elle se place un peu en moraliste, mais pas en moralisatrice. Quand je dis moraliste, c'est vraiment aussi parce que c'est rattaché à cette tradition littéraire. On parlait de James Thurber, on parlait de Dorothy Parker, on a parlé d'Oscar Wilde, on pourrait aussi parler de Mark Twain, voilà, qui était aussi, en dehors d'être un romancier, quelqu'un qui aimait, comme ça, s'exprimer sur ses contemporains, sur le monde, sur la politique, sur la morale, sur la religion. Donc elle s'inscrit dans cette tradition-là. Moi, elle me fait penser à cette phrase très célèbre de Groucho Marx, je ne serai jamais membre d'un club qui m'accepterait comme membre. Et c'est un peu ça, Fran Lebowitz. Elle est aussi dans cette tradition de l'humour juif américain. Elle, d'ailleurs, elle s'en réclame. Et c'est vrai qu'il y a cette dérision permanente et aussi cette volonté de rire d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune pudeur à se moquer d'elle-même, de ses travers, de son dégoût de certaines choses, de son envie de toujours fumer, même si elle sait que c'est très mauvais pour la santé. Elle a cet humour, elle a cette distance. Et je crois que c'est ça aussi qui a suscité cet engouement.
La rencontre avec Fran Lebowitz a lieu ce soir avec vous, Nicolas Saada, à 20h. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette émission comparée ce soir de Jean-Jacques Schul et avec votre choix musical, Chambre 1050, par Ingrid Cavan, paru sur l'album Chambre 1050. La musique est de Per Raben, les paroles de vous, Jean-Jacques Schul.
Dans la chambre sang. Il y a un Sex Pistol et sa fiancée en sang. Dans la chambre zéro vide, il y a trois vidéos. Vidéo 1, Monroe. Vidéo 2, Harlow. Vidéo 3, Gabo. C'est le nom de trois chevaux. Des chansons très, très chics. Dans la chambre zéro vide, il y a trois vidéos. Vidéo 1, la bourse. Vidéo 2, les courses. Vidéo 3, rien. Disait deux fois, Sid, ne me tue pas, je t'aime tant. Dans la chambre à côté au téléphone, une fragile voix d'enfant. Je vous jure que je ne me défonce plus, maman. Sans destin, il y a un gant noir par terre, un gant de cycliste troué aux phalanges, quelqu'un qui dit bonjour mon ange, l'autre qui répond je trouve vulgaire de mettre la main sur les yeux par derrière. Dans la chambre 1050, il y a moi qui chante des chansons tragiques, des chansons très, très chics. Dans la chambre zéro vide, il y a trois vidéos. Vidéo 1, rien. Vidéo 2, rien. Vidéo 3, moi. Dans la chambre à côté au téléphone, la fragile voix d'enfant. Ouais, ouais. Le gant n'est plus là, mystère.
Écrire les paroles d'une chanson, qu'est-ce que ça mobilise pour vous, Jean-Jacques Schulle?
J'ai écrit que pour Ingrid Cavan. D'abord, je ne suis pas parolier. Et puis, je pense que les écrivains n'écrivent pas de bonnes chansons. Il y a Raymond Queneau qui en a écrit de pas mal pour Gréco, etc. Mais Queneau avait une disposition très forte à utiliser le langage populaire, le langage très simple. La plupart des écrivains, dont moi d'ailleurs, a beaucoup de mal à se libérer de certains, du carcan, de ce qu'on a appris à l'école, de formation. Enfin, j'essaye constamment, d'ailleurs, dans ce que j'écris. Et donc, j'ai pas beaucoup insisté. J'en ai écrit deux ou trois qui étaient pas mal, mais enfin, ça, c'est pas le sujet, pas tellement. Pas...
À propos de Queneau, Il y a une ligne, alors, comme une ligne de conduite pour vous, venue de lui.
Oui, alors Queneau, il y a un changement constamment. D'abord, c'est très vivant. Ce qui m'accompagne quand j'écris un livre, c'est j'essaye de rester vivant dans les dialogues et ailleurs, éviter toute boursouflure. Le mot vivant, qui est très simple, c'est ça que je cherche, le vivant. Et de ce côté-là, il y a deux écrivains que je prends comme une hygiène, si vous voulez, comme une gymnastique même, pendant que j'écris ou juste avant. C'est Raymond Queneau et Hemingway. Le Hemingway, le meilleur Hemingway, c'est-à-dire celui des années entre 14 et 24, 25, les premières nouvelles. Peut-être pas tout à fait les premières, mais les nouvelles. Et je pense, pour ma part, Soleil s'élève aussi, c'est encore très bien, il y a encore des choses bien, mais après, ça s'est lentement dégradé, il a fait de l'Hemingway, c'est une autre histoire, ça c'est le problème. Quant à Raymond Queneau, c'était quelqu'un qui mélangeait formidablement les genres, il avait été, comme on sait, un membre du surréalisme, où il paraissait très longtemps, parce que la discipline de Breton, c'était pas pour lui, mais pour lui demander qu'est-ce que vous avez trouvé dans le surréalisme que vous regrettez, il a dit j'ai trouvé une jeunesse. Et donc, un des points qu'il a pris et développé avec le surréalisme, c'est le mélange des genres, le refus de la hiérarchie. Et il avait une phrase que j'aime beaucoup, il avait comme un motto, je l'ai entendu dire, il faut l'art, mais il faut la rigolade. Il faut la rigolade, mais il faut l'art. Et donc c'est quelqu'un qui n'a aucun esprit de sérieux, tout en étant toujours très sérieux. Et c'est un formidable dialoguiste.
Alors, j'en reviens malgré tout aux paroles de chansons. On peut considérer que la chanson, elle se rapproche pour beaucoup de la poésie. Après tout, Bob Dylan a bien eu le prix Nobel de littérature. Mais vous parlez plusieurs fois de poésie dans votre nouveau livre « Les apparitions » Jean-Jacques Chaulle, avec notamment cette image du vendeur de poésie sous le manteau, et vous posez les questions.
Alors là, le vendeur de poésie qui s'approche avec le grand manteau, qui ouvre son manteau, qui a l'air très louche d'ailleurs, et qui chaque soir se trouve à l'angle de l'impasse Récamier, où il y a beaucoup de monde qui sort du métro et de la rue de Sèvres, et qui dit « ça vous intéresse la poésie ?» comme s'il voulait nous vendre un jeu de cartes pornographique ou une brochure pornographique. Et en bon, des brochures, c'est des brochures de poésie. C'était pour montrer l'état dans lequel était la poésie aujourd'hui.
Oui, vous dites, où est-elle passée la poésie, demandez-vous.
Où est-elle passée? Ben, moi, je la fais... Je prends des vers anciens de la poésie moderne, comme si c'était S. Eliot ou d'autres, et je la fais passer dans la prose.
Ou la transfuser.
Elle est dans la prose. Est dans la prose. Quand il y a un rythme dans la prose, dans la très bonne prose, j'y arrive pas toujours, et on peut à ce moment-là injecter un échantillon de poésie. La greffe prend, pas toujours. Lorsque c'est une poésie trop forte comme Rimbaud, ça prend pas. J'ai essayé, mais c'est très amusant à faire ça. Je me compare un peu comme à un moment donné, vous savez, un chirurgien qui fait des greffes, etc., la nuit, devant l'ambassade, etc. Et donc c'est très amusant de greffer ou d'injecter, instiller un tout petit peu de poésie dans la prose un peu anémiée, qui est devenue aujourd'hui un peu anémiée, si on lit la plupart des livres, y compris... c'est une prose faible, un peu anémique, et il faut la... Je pense c'est bien de la... Sinon régénérer, du moins lui donner un coup de fouet, en y injectant un peu de poésie, mais pas de façon trop abrupte. Il faut que ça, je suis contre ça, contre le collage et l'expérimentation, l'avant-garde, tout ça, non. Il faut rester dans le ton de... Et c'est intéressant, c'est une des chances de la prose, je pense, aujourd'hui, que de s'ouvrir un tout petit peu vers la poésie, soit par citation, soit par d'autres moyens. Moi, je le fais, j'aime beaucoup la citation. Et des fois, on ne le remarque pas. On ne remarque pas la poésie, mais on se dit, ah, c'est un truc un peu fort. Et Enfin, il y a quelque chose avec ça. Donc, vous me demandez où elle est passée. Je pense que c'est bien qu'elle passe dans la prose.
Comme en contrebande. Mais pour revenir à la chanson qu'on a entendue d'Ingrid Cavan, c'est aussi comme un montage. On a l'impression qu'il y a plusieurs chansons dans cette chanson. Et ça, c'est tout à fait du Jean-Jacques Schul. Et vous l'avez déjà expliqué plusieurs fois. Mais c'est vos outils, c'est la colle, les ciseaux, le scotch. Et c'est de déplacer aussi les éléments. Vous évoquiez Rauschenberg tout à l'heure. Il y a le Combine Painting de Rauschenberg. Il y a le Combine Writing de Jean-Jacques Schul.
Combine Writing. Je voulais à un moment donné, je ne sais plus, peut-être pour Telex numéro 1 ou quoi, je voulais mettre comme genre Combine Writing. Je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu provocateur. Mais oui, c'est ça, absolument. Les chambres, oui, les chambres. Je suis assez impatient, j'ai besoin de passer un truc comme je suis dans l'écriture aussi. Je ne peux pas rester longtemps homogène, je ne peux pas suivre, développer ou suivre un personnage. C'est pour ça que je ne suis pas un vrai romancier, au sens traditionnel ou balzacien. Je ne peux pas suivre trop longtemps un personnage. Je suis assez volage, dirons-nous, de ce point de vue-là. Je les quitte très vite, ou bien je quitte très vite l'endroit pour passer à un autre. Et là, les chambres, oui, c'était une chambre, puis une autre. De toute façon, les hôtels, je trouve, sont un lieu d'inspiration assez fort. Parce que d'abord, c'est anonyme, ça n'appartient à personne. Oui, il y a un propriétaire, mais enfin, on peut rentrer, c'est au niveau de la rue. C'est en un sens le prolongement de la rue. Il y a un décret, d'ailleurs, pardonnez-moi d'aller vers la justice dans une émission comme ça, enfin, tout se tient. Et donc, il y a un décret qui a été pris, je crois, après la guerre, je ne sais plus quand, à la suite de réclamations et autres, qui autorise, et ils ne le savent pas, les malheureux, surtout quand ils n'ont pas d'argent, qui autorise les gens qui passent dans la rue, enfin n'importe qui, si vous voulez, de rentrer dans l'hôtel, mais uniquement le lobby, c'est-à-dire ce qui est au niveau de la rue, pas dans les chambres, bien sûr. Mais dans le lobby, tout le monde peut rentrer. C'est-à-dire le portier qui est là, qui voit un clochard qui n'a pas de choses, je ne sais pas quoi, le clochard peut rentrer dans l'hôtel. Donc, c'est pour dire, là encore, c'est pas tout à fait anecdotique, c'est pour dire que l'hôtel, donc, en quelque sorte, le réchauffé, appartient à tout le monde. Et c'est des choses qui me plaisent. Le journal, pareil. Sinon, qu'il faut donner un peu d'argent. Mais enfin, c'est des choses qui sont demi-publiques, disons. Ah. Et là encore, on est dans quelque chose où l'individualité, le soi-même, etc., sont un peu battus en brèche.
Pour rester sur... tout se rejoint ou tout fait partie de la vie, de l'art. Toutes les formes d'art nourrissent votre travail, Jean-Jacques Schul, en particulier le cinéma. Bien sûr, on a parlé de Stache, on aurait pu parler de Lynch, de Jean-Luc Godard. On peut parler aussi d'Ingrid Cavan, parce que effectivement, de vivre avec une artiste, ça stimule l'un comme l'autre, j'imagine.
Alors. On vit tous les deux dans cet appartement. Il n'est pas immense, il est grand, mais il n'est pas non plus immense. Et donc, il lui arrive parfois de répéter, comme ça a été le cas il y a 5-6 ans, de répéter le Pierrot Lunaire de Schoenberg, ou Kurt Weill, ce que vous voulez, pendant que j'écris de l'autre côté. Mais quand même, des échos en viennent jusqu'à moi. Bon, ça, c'est justement pour le... c'est symbolique. Mais nous avons des... je suis donc un écrivain, si je puis dire, par son mode d'habitation et de rapport avec quelqu'un, qui vit avec une femme depuis maintenant très longtemps, qui est une chanteuse de talent assez connue, et une actrice de cinéma. Et d'autre part, nos rapports sont tels que ce sont des rapports où, quand j'écris, elle peut parfaitement intervenir. Je lui demande très souvent son avis. Je lui demande son avis sur une phrase, sur la musicalité ou non d'une phrase, sur la position, sur la composition. Donc, je peux lui poser toutes sortes de questions. C'est quelqu'un qui est prêt à me répondre, et souvent très bien, et souvent très bien. Elle, plus rarement, parce que je suis pas un musicien, mais j'ai un peu d'oreille. Pareil, avec elle. Donc, il y a quelque chose de même de commun, même dans le travail. Elle a vécu longtemps, elle a été mariée avec lui d'ailleurs, avec Rainer Werner Fassbinder, et Fassbinder avait déclaré, si le mot affinité élective a un sens, c'est pour désigner mes rapports avec Ingrid Cavan. Ça, c'est Fassbinder. Je signe tout de suite cette phrase en enlevant Fassbinder et en me mettant une fois de plus à sa place. D'autre part, c'est très amusant. Très peu d'écrivains. Oui, je vois pas qui. Oui, il y a Roth. Mais enfin, c'est dans une autre histoire. C'est le monde anglo-saxon. Restons en France. Je me considère comme un écrivain privilégié et très particulier. Par exemple, il y a des choses amusantes qui se sont passées. Il y a eu ce livre Ingrid Cavan qui a eu un certain succès, puis ça a eu le prix Goncourt. Et Ingrid a été invitée à chanter, à faire deux soirs à l'Odéon. Plein, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passait là? Le personnage du livre, comme il y a Madame Bovary ou ce que vous voulez, enfin, je vais pas m'aligner avec Flaubert, c'est pas ça. Mais le personnage du livre s'incarnait tout d'un coup sur une scène, ce qui était des mots, tout d'un coup, et beaucoup de gens sont venus parce qu'ils voulaient voir, ils n'avaient pas vu, et donc ils l'avaient lu, ils voulaient voir ce que ce serait. C'est un moment formidable, le moment de l'incarnation. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, l'écriture, moi, après, elle prend le relais, elle s'incarne sur la scène de l'Odéon.
Je voudrais, bien sûr, Jean-Jacques Schoul, évoquer deux faits ou deux phénomènes très marquants concernant votre nouveau livre, qui semblent, ces deux moments ou deux effets, comme un aboutissement paradoxal de votre parcours artistique. Le premier d'entre eux est résumé dans cette phrase, page 28, « Voilà ». C'était arrivé, les mots venaient s'écrire tout seuls sur ma page. Enfin, vous n'êtes plus l'auteur de vos phrases.
Qui c'est alors? Dieu? Qui est l'auteur? Je ne sais pas. Bien entendu, c'est une... je crois que ça s'appelle une parabole, cette histoire des mots, que je fais assez long, là. Je raconte toute cette histoire de la résistance, enfin bref.
C'est de l'encre sympathique, des mots qui apparaissent.
Oui, c'est amusant. Mais c'est une longue parabole, évidemment. Ça ne se passe pas comme ça. Comme dans Kafka, d'ailleurs, que je cite sans donner son nom, parce que c'est un nom un peu trop gros, un écrivain tchèque, un jour de tempête, il y a des mots qui se mettent à bouger sur sa page. Évidemment, il fait des paraboles. Avec beaucoup plus de talent que moi, bien sûr. Et donc, c'est une parabole... Mais c'est très fort, ça me suit. Je le reprends ensuite à la fin, lorsque j'ai les apparitions, en disant que finalement, ces apparitions, il y en avait eu une sorte de prémonition dans ce passage que vous venez de citer, où les mots transparaissaient, etc., venaient de l'extérieur, puisque c'est avec ces apparitions horribles que j'ai, je dis qu'elles viennent... C'est pas possible qu'elles viennent de mon cerveau, elles me sont présentées de l'extérieur, par le diable, peut-être. Alors... Oui, vous avez raison, c'est peut-être une volonté de ne pas avoir de responsabilité, la peur d'écrire, qui est toujours quelque chose de prométhéen, enfin, l'écriture comme tous les arts, mais l'écriture peut-être encore plus, parce que c'est un truc ancestral depuis le début des temps. C'est quelque chose de plus fort que tout, l'écriture, je crois. Et donc, il y a parfois cette peur de toucher à ça, pour écrire, c'est-à-dire faire de la littérature. Et peut-être que là, tout d'un coup, on se sent dégagé. C'est pas moi, c'est qui ? Oui, c'est qui ? Est-ce que ce serait pas Dieu par hasard ?
Alors, l'autre événement, c'est cette hypoxie cérébrale que vous avez subie suite à une forte hémorragie. Enfin, je dis vous, c'est ce qui est dans le livre, les apparitions en tout cas. Ça vous a amené à avoir ces apparitions, pour reprendre le titre du livre, et cette certitude que vous n'avez pas créé ces apparitions, ce que vous venez de dire, mais que vous en avez été le récepteur, comme un médium passager. Et là, quand on relit vos livres, Jean-Jacques Schoul, on voit que c'est cette position-là que vous avez toujours chercher sur... Oui, émetteur-récepteur.
Oui, je vais me permettre, puisqu'on va parler de citation, je vais faire une auto-citation, assez courte. C'est les premières lignes que j'ai écrites. C'est une sorte de préambule court, Rose Poussière. J'aimerais un jour parvenir à la morne platitude distante du catalogue d'armes et cycles de Saint-Étienne. En attendant, loin du compte, j'ai recopié des telex hippiques, des paroles de chansons anglaises, des prospectus pharmaceutiques, des dialogues d'anciens films. Tout le reste, hélas, est de moi. Probablement. Donc, oui, vous avez raison, ça remonte au début. Je cherche pas la cohérence, c'est pas... Ça se trouve comme ça.
On va se retrouver dans quelques minutes, Jean-Jacques Schulle, pour conclure ensemble cette émission. Auparavant, affaire à suivre.
France Culture, affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et comme chaque soir, nous quittons ce studio pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France. Et ce soir, nous sommes en ligne avec la cinéaste Lucile Adzialilovic. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre œuvre fait l'objet d'une rétrospective dans le cadre du Festival international du film de femmes à Créteil, festival qui a débuté aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'au 20 mars. Alors cette notion même de film de femmes ne va pas sans débat. Film réalisé par une femme, film sur des femmes, film qui traite de thématiques dites féminines. Bon, j'espère qu'on aura bientôt plus ce genre de conversation, mais quelle serait votre définition, vous, comment vous l'entendez, festival de films de femmes ?
Tout simplement, festival de films, je dirais, réalisé par des femmes. Et je ne vois pas au-delà de ça, s'il y a des thèmes spécifiquement féminins, je ne sais pas. Ouais, je pense que des hommes peuvent... les traiter aussi.
On est bien d'accord là-dessus et c'est bien comme ça que ça se passe et que c'est entendu du côté de Créteil. Alors, en l'occurrence, oui. Votre rétrospective s'inscrira dans la section Elles font genre dans le festival. Qu'est-ce qui, selon vous, se joue justement dans cette articulation entre le cinéma de genre et le cinéma réalisé par des femmes, puisque pendant longtemps, justement, l'idée du genre, elle a été réservée aussi bien côté réalisation que côté public au masculin.
Effectivement, il y a sûrement, de même qu'il y a moins de femmes qui font des films qu'il y a d'hommes, il y a encore moins de femmes qui font des films dits de genre. Après, la question de quel genre il s'agit, c'est une autre question. Mais disons, fantastique, d'horreur, de science-fiction, je suppose que c'est ça ce que le festival, en l'occurrence, entend par film de genre. Donc oui, il y a sans doute moins de femmes. Il y avait aussi, il y a quelques décennies, très très peu de femmes spectatrices de films de genre. Et que maintenant, elles sont extrêmement nombreuses. Je pense que ça a à voir aussi avec le fait que ces femmes spectatrices et amatrices de films de genre ont eu accès à de la vidéo, à des films en vidéo, et n'ont plus été obligées d'aller dans des salles remplies d'hommes qui voyaient des films d'horreur et qui, peut-être, pouvaient ne pas être très accueillants comme public. Voilà.
Alors, pour parler de votre travail, Lucile Adzialilovic, beaucoup d'enfants peuplent vos films. La dernière en date, c'est Mia, donc l'héroïne d'Earwing, cette petite fille aux dents fragiles, prisonnière d'un adulte, on ne va pas en dire beaucoup plus. Mais comment est née cette histoire de dents ? Qu'est-ce qu'elle vous permet de représenter de l'enfance et de ses inquiétudes ?
En fait, c'est un film qui est adapté d'un roman anglais de Brian Catling. Et c'est donc lui qui a eu l'idée de cette petite fille aux dents de glace. Et j'ai trouvé que c'était une image, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire le film, c'était cette image-là. Je me disais que je voulais vraiment voir à quoi ça pouvait ressembler une enfant avec des dents de glace. À la fois, il y a ce côté de les dents, c'est quelque chose qui est d'une extrêmement essentiel à notre être. C'est quelque chose qui reste même après notre mort. Et en fait, qu'elles soient fragiles comme ça, qu'elles fondent, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de dents en glace, je trouvais que cette image paradoxale était extrêmement forte et provoquait beaucoup de sensations. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire le film, et je n'en dirai pas plus quant à ces fameuses dents.
Alors, je dévoile une
une autre toute petite chose, enfin, qui a son importance, mais aucun des deux personnages, ni Albert ni Mia, ne parle vraiment. Vous dites considérer le cinéma comme une forme d'expression non-verbale. Alors justement, qu'est-ce que cette absence de verbal permet, de, selon vous, de faire advenir à l'image ?
Ben, il me semble que le cinéma, c'est des images et des sons, pas forcément de la parole. Et quand je dis non-verbal, effectivement, il s'agit des mots. Je pense que le cinéma peut avoir quelque chose de très fort en rapport avec les rêves, voire les cauchemars, et que c'est ce côté onirique souvent qui m'intéresse, que j'essaye d'explorer dans les films que je fais. Et pour cela, la parole n'y est pas en effet essentielle.
Le fait qu'il y ait cette rétrospective, quel effet ça produit sur vous ?
Je trouve ça un peu déconcertant parce que je n'ai pas fait beaucoup de films. Après, voilà, j'ai peut-être l'âge d'avoir une rétrospective. Ça m'inquiète un peu, d'une certaine manière. Ça me fait très plaisir qu'on montre mes films, parce qu'ils ont été quand même assez peu vus en salle. Et du coup, c'est une très belle occasion de les voir sur un grand écran. Et ce sont des films très immersifs, de sensations, beaucoup. Donc, c'est encore plus
fait
important.
Fait pour le grand écran, absolument, voilà, vos films. Et à ce propos, dernière question, est-ce qu'il y a une date de sortie prévue pour Irwing ?
C'est Irwig.
Irwig, pardon,
voilà, qui veut dire voilà, c'est un titre anglais, parce que le film est en anglais, ça veut dire perce-oreille. Le film devrait sortir a priori à la fin du mois d'août, tout début de septembre, et c'est Elisabeth Perlier de New Story qui le sort, ce dont je suis très contente, mais la date n'est pas encore absolument fixée. Voilà.
Bon, on va guetter ça, en tout cas. Merci beaucoup, Lucile
Adialimovitch.
Ces quelques instants passés avec nous pour parler, oui, de votre rétrospective proposée dans le cadre de la 44e édition du Festival international du film de femmes à Créteil, qui se poursuit jusqu'au 20 mars. Un instant encore avec vous, Jean-Jacques Schul, pour une peut-être pour une dernière question, ou une ou deux, mais au-delà de toute considération, je dirais, physique ou physiologique, pensez-vous qu'il y aura un autre livre après Les Apparitions ?
J'aimerais bien, je sais pas, je peux pas dire, j'ai pas de plan de carrière, évidemment, j'ai pas de plan tout court, en un sens, je sais pas, Solers me dit, je comprends pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais il me dit, tu écris toujours. Pour lui, on écrit dans la tête, je sais pas, enfin c'est un truc qu'il a, une idée fixe qu'il a, qu'on écrit tout le temps. C'est pas le stylo et le papier, c'est pas non plus qu'on fait les phrases dans sa tête. Je pense qu'il pense qu'on fait des choses, on vit d'une certaine manière, qui ensuite appelle l'écriture, on a un peu d'écriture dans le corps. Enfin, c'est des choses que je vous dis, je comprends mal. Mais enfin, il dit ça. C'est aussi curieux d'écrire que de pas écrire, parce que c'est quand même très artificiel, l'écriture. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très naturel, parce que le langage est devenu très naturel, le langage banlieue, le langage réaliste, tout ça. Mais le langage artificiel, la poésie, disons, c'est pas du tout naturel. Bien que ce soit la première forme qui y ait eu, c'est quelque chose de complètement artificiel. Et le silence en musique, ça a une valeur. C'est une valeur, surtout dans la musique moderne d'ailleurs. Sans parler de John Cage, lui, encore plus. Mais donc, le silence a une, je considère que le silence a une valeur. Ou alors, les paysagistes chinois, les paysagistes Tong, disaient que ce qu'il y avait entre deux, entre une montagne par exemple et un cyprès sur la toile, comptait autant que la montagne ou le cyprès. Bon, je ne veux pas m'abriter derrière des choses qu'on peut considérer comme des sophismes, mais dans tous les cas, j'aimerais bien écrire encore un, deux, trois livres, parce que y a une chose que j'essaie, dont je suis arrivé peu à peu à mettre, à installer dans mes livres, c'est une certaine forme de lyrisme, mais un lyrisme, pas le lyrisme romantique, pas le lyrisme du bel canto, le lyrisme, un lyrisme moderne, un lyrisme d'aujourd'hui, qui ne doit rien, qui n'a aucun écho de nostalgie rétro. Je suis à la recherche d'un nouveau lyrisme.
Merci Jean-Jacques Schulz d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle que vous venez de publier Les Apparitions aux éditions Gallimard. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur franceculture.fr ou via l'application Radio France. Émission préparée par Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Pierre Bouillet et Lucille Comeau.